Troisième partie, chapitre 5. Sans doute, la duchesse de Guermantes, par mortification, venait parfois faire, ces soirs-là, une visite de digestion à la princesse, qui la gardait tout le temps à côté d'elle, tout en badinant avec le duc. Mais quand la duchesse venait dîner, la princesse se gardait bien d'avoir ses habitués et fermait sa porte en sortant de table, de peur que des visiteurs, trop peu choisis, déplussent à l'exigeante duchesse. Ces soirs-là, si des fidèles, non prévenus, se présentaient à la porte de l'Altesse, le concierge répondait « Son Altesse royale ne reçoit pas ce soir » et on repartait. D'avance, d'ailleurs, beaucoup d'amis de la princesse savaient que, à cette date-là, ils ne seraient pas invités. C'était une série particulière, une série fermée à tant de ceux qui eussent souhaité d'y être compris. Les exclus pouvaient, avec une quasi-certitude, nommer les élus, et se disaient entre eux d'un ton piqué « Vous savez bien qu'Oriane de Guermantes ne se déplace jamais sans tout son état-major. » À l'aide de celui-ci, la princesse de Parme cherchait à entourer la duchesse, comme d'une muraille protectrice contre les personnes desquelles le succès auprès d'elle serait plus douteux. Mais à plusieurs des amis préférés de la duchesse, à plusieurs membres de ce brillant état-major, la princesse de Parme était gênée de faire des amabilités, vu qu'ils en avaient fort peu pour elle. Sans doute, la princesse de Parme admettait fort bien qu'on pût se plaire davantage dans la société de Madame de Guermantes que dans la sienne propre. Elle était bien obligée de constater qu'on s'écrasait au jour de la duchesse, et qu'elle-même y rencontrait souvent trois ou quatre altesses qui se contentaient de mettre leurs cartes chez elle. Et elle avait beau retenir les mots d'Oriane, imiter ses robes, servir à ses thés les mêmes tartes aux fraises, il y avait des fois où elle restait seule toute la journée avec une dame d'honneur et un conseiller de légation étranger. Aussi, lorsque, comme ça avait été par exemple le cas pour Swann jadis, quelqu'un ne finissait jamais la journée sans être allé passer 2 heures chez la duchesse et faisait une visite une fois tous les 2 ans à la princesse de Parme, celle-ci n'avait pas grande envie, même pour amuser Oriane, de faire à ce Swann quelconque les avances de l'inviter à dîner. Bref, convier la duchesse était pour la princesse de Parme une occasion de perplexité. Tant elle était rongée par la crainte qu'Oriane trouva tout mal. Mais en revanche, et pour la même raison, quand la princesse de Parme venait dîner chez Madame de Guermantes, elle était sûre d'avance que tout serait bien, délicieux. Elle n'avait qu'une peur, c'était de ne pas savoir comprendre, retenir, plaire, de ne pas savoir assimiler les idées et les gens. À ce titre, ma présence excitait son attention et sa cupidité, aussi bien que l'eût fait une nouvelle manière de décorer la table avec des guirlandes de fruits, incertaine qu'elle était si c'était l'une ou l'autre, la décoration de la table ou ma présence, qui était plus particulièrement l'un de ses charmes, secret du succès des réceptions d'Oriane, et dans le doute, bien décidée à tenter d'avoir à son prochain dîner l'un et l'autre. Ce qui justifiait du reste pleinement la curiosité ravie que la princesse de Parme apportait chez la duchesse, c'était cet élément comique, dangereux, excitant, où la princesse se plongeait avec une sorte de crainte, de saisissement et de délice, comme au bord de la mer, dans un de ces bains de vagues dont les guides baigneurs signalent le péril, tout simplement parce qu'aucun d'eux ne sait nager. D'où elle sortait tonifiée, heureuse, rajeunie, et qu'on appelait l'esprit des Guermantes. L'esprit des Guermantes, entité aussi inexistante que la quadrature du cercle, selon la duchesse, qui se jugeait la seule Guermante à le posséder, était une réputation comme les rillettes de Tours ou les biscuits de Reims. Sans doute, une particularité intellectuelle n'usant pas pour se propager des mêmes modes que la couleur des cheveux ou du teint, certains intimes de la duchesse, et qui n'étaient pas de son sang, possédaient pourtant cet esprit, lequel, en revanche, n'avait pu envahir certains Guermantes par trop réfractaires à n'importe quelle sorte d'esprit. Les détenteurs non apparentés à la duchesse de l'esprit des Guermantes avaient généralement pour caractéristique d'avoir été des hommes brillants, doués pour une carrière à laquelle, que ce fût les arts, la diplomatie, l'éloquence parlementaire, l'armée, ils avaient préféré la vie de coterie. Peut-être cette préférence aurait-elle pu être expliquée par un certain manque d'originalité, ou d'initiative, ou de vouloir, ou de santé, ou de chance, ou par le snobisme. Chez certains, il faut d'ailleurs reconnaître que c'était l'exception, et si le salon Guermantes avait été la pierre d'achoppement de leur carrière, c'était contre leur gré. Ainsi, un médecin, un peintre et un diplomate de grand avenir n'avaient pu réussir dans leur carrière, pour laquelle ils étaient pourtant plus brillamment doués que beaucoup, parce que leur intimité chez les Guermantes faisait que les deux premiers passaient pour des gens du monde et le troisième pour un réactionnaire, ce qui les avait empêchés tous trois d'être reconnus par leur père. L'antique robe et la toque rouge que revêtent et coiffent encore les collèges électoraux des facultés n'est pas, ou du moins n'était pas, il n'y a pas encore si longtemps, que la survivance purement extérieure d'un passé aux idées étroites, d'un sectarisme fermé. Sous la toque à gland d'or, comme les grands prêtres sous le bonnet conique des Juifs, les « professeurs » étaient encore, dans les années qui précédèrent l'affaire Dreyfus, enfermés dans des idées rigoureusement pharisiennes. Du Boulbon était au fond un artiste, mais il était sauvé parce qu'il n'aimait pas le monde. Cottard fréquentait les Verdurin, mais Madame Verdurin était une cliente, puis il était protégé par sa vulgarité. Enfin, chez lui, il ne recevait que la faculté, dans des agapes sur lesquelles flottait une odeur d'acide phénique. Mais dans les corps fortement constitués, où d'ailleurs la rigueur des préjugés n'est que la rançon de la plus belle intégrité, des idées morales les plus élevées, qui fléchissent dans les milieux plus tolérants, plus libres et bien vite dissolus, un professeur, dans sa robe rouge en satin écarlate doublée d'hermine, comme celle d'un doge, c'est-à-dire un duc, de Venise, enfermé dans le palais ducal, était aussi vertueux, aussi attaché à de nobles principes, mais aussi impitoyable pour tout élément étranger, que cet autre duc, excellent mais terrible, qu'était Monsieur de Saint-Simon. L'étranger, c'était le médecin mondain, ayant d'autres manières, d'autres relations. Pour bien faire, le malheureux dont nous parlons ici, afin de ne pas être accusé par ses collègues de les mépriser, quelles idées d'hommes du monde, s'il leur cachait la duchesse de Guermantes, espérait les désarmer en donnant les dîners mixtes où l'élément médical était noyé dans l'élément mondain. Il ne savait pas qu'il signait ainsi sa perte, ou plutôt, il l'apprenait quand le conseil des 10, un peu plus élevé en nombre, avait à pourvoir à la vacance d'une chaire, et que c'était toujours le nom d'un médecin plus normal, fût-il plus médiocre, qui sortait de l'urne fatale, et que le veto retentissait dans l'antique faculté, aussi solennel, aussi ridicule, aussi terrible que le jureau sur lequel mourut Molière. Ainsi encore du peintre, à jamais étiqueté homme du monde, quand des gens du monde qui faisaient de l'art avaient réussi à se faire étiqueter artiste, ainsi pour le diplomate, ayant trop d'attaches réactionnaires. Mais ce cas était le plus rare. Le type des hommes distingués qui formaient le fond du salon Guermantes était celui des gens ayant renoncé volontairement, ou le croyant du moins, au reste, à tout ce qui était incompatible avec l'esprit des Guermantes, la politesse des Guermantes, avec ce charme indéfinissable, odieux à tout corps, tant soit peu centralisé. Et les gens qui savaient qu'autrefois l'un de ces habitués du salon de la duchesse avait eu la médaille d'or au salon, que l'autre, secrétaire de la conférence des avocats, avait fait des débuts retentissants à la chambre, qu'un troisième avait habilement servi la France comme chargé d'affaires, auraient pu considérer comme des ratés les gens qui n'avaient plus rien fait depuis 20 ans. Mais ces renseignés étaient peu nombreux, et les intéressés eux-mêmes auraient été les derniers à le rappeler, trouvant ces anciens titres de nulle valeur, en vertu même de l'esprit des Guermantes. Celui-ci ne faisait-il pas taxer de raseur, de pion, ou bien au contraire de garçon de magasin, tels ministres éminents, l'un un peu solennel, l'autre amateur de calembours, dont les journaux chantaient les louanges, mais à côté de qui Madame de Guermantes bâillait et donnait des signes d'impatience si l'imprudence d'une maîtresse de maison lui avait donné l'un ou l'autre pour voisin. Puisque être un homme d'État de premier ordre n'était nullement une recommandation auprès de la duchesse, ceux de ses amis qui avaient donné leur démission de la carrière ou de l'armée, qui ne s'étaient pas représentés à la chambre, jugeaient, en venant tous les jours déjeuner et causer avec leur grande amie, en la retrouvant chez des altesses, d'ailleurs peu appréciées d'eux, du moins le disaient-ils, qu'ils avaient choisi la meilleure part, encore que leur air mélancolique, même au milieu de la gaieté, contredit un peu le bien fondé de ce jugement. Encore faut-il reconnaître que la délicatesse de vie sociale, la finesse des conversations chez les Guermantes, avait, si mince cela fût-il, quelque chose de réel. Aucun titre officiel n'y valait l'agrément de certains des préférés de Madame de Guermantes, que les ministres les plus puissants n'auraient pu réussir à attirer chez eux. Si, dans ce salon, tant d'ambitions intellectuelles et même de nobles efforts avaient été enterrés pour jamais, du moins de leur poussière, la plus rare floraison de mondanité avait pris naissance. Certes, des hommes d'esprit, comme Swann par exemple, se jugeaient supérieurs à des hommes de valeur qu'ils dédaignaient, mais c'est que ce que la duchesse de Guermantes plaçait au-dessus de tout, ce n'était pas l'intelligence, c'était, selon elle, cette forme supérieure, plus exquise, de l'intelligence élevée jusqu'à une variété verbale de talent, l'esprit. Et autrefois, chez les Verdurin, quand Swann jugeait Brichot et Elstir, l'un comme un pédant, l'autre comme un mufle, malgré tout le savoir de l'un et tout le génie de l'autre, c'était l'infiltration de l'esprit Guermantes qui l'avait fait les classer ainsi. Jamais il n'eût osé présenter ni l'un ni l'autre à la duchesse, sentant d'avance de quel air elle eût accueilli les tirades de Brichot, les calembredaines d'Elstir. L'esprit des Guermantes, rangeant les propos prétentieux et prolongés du genre sérieux ou du genre farceur dans la plus intolérable imbécilité. Quant aux Guermantes, selon la chair, selon le sang, si l'esprit des Guermantes ne les avait pas gagnés aussi complètement qu'il arrive, par exemple, dans les cénacles littéraires, où tout le monde a une même manière de prononcer, d'énoncer, et par voie de conséquence, de penser, ce n'est pas certes que l'originalité soit plus forte dans les milieux mondains, et y mettent obstacle à l'imitation. Mais l'imitation a pour condition non pas seulement l'absence d'une originalité irréductible, mais encore une finesse relative d'oreille qui permette de discerner d'abord ce qu'on imite ensuite. Or, il y avait quelques Guermantes auxquelles ce sens musical faisait aussi entièrement défaut qu'aux courvoisiers. Pour prendre comme exemple l'exercice qu'on appelle, dans une autre acception du mot « imitation », « faire des imitations », ce qui se disait chez les Guermantes « faire des charges », Madame de Guermantes avait beau le réussir à ravir, les courvoisiers étaient aussi incapables de s'en rendre compte que s'ils eussent été une bande de lapins au lieu d'hommes et femmes, parce qu'il n'avait jamais su remarquer le défaut ou l'accent que la duchesse cherchait à contrefaire. Quand elle imitait le duc de Limoges, les courvoisiers protestaient. « Oh non, il ne parle tout de même pas comme cela. J'ai encore dîné hier soir avec lui chez Bébête. Il m'a parlé toute la soirée. Il ne parlait pas comme cela. » Tandis que les Guermantes un peu cultivées s'écriaient « Dieu qu'Oriane est drôlatique. Le plus fort, c'est que pendant qu'elle l'imite, elle lui ressemble. Je crois l'entendre. Oriane, encore un peu Limoges. » Or, ces Guermantes-là, sans même aller jusqu'à ceux tout à fait remarquables qui, lorsque la duchesse imitait le duc de Limoges, disaient avec admiration « Ah, on peut dire que vous le tenez !» ou « Que tu le tiens !» avaient beau ne pas avoir l'esprit, selon Madame de Guermantes, en quoi elle était dans le vrai. À force d'entendre et de raconter les mots de la duchesse, ils étaient arrivés à imiter, tant bien que mal, sa manière de s'exprimer, de juger ce que Swann eût appelé, comme le duc, sa manière de rédiger, jusqu'à présenter dans leur conversation quelque chose qui, pour les courvoisiers, paraissait affreusement similaire à l'esprit d'Oriane et était traité par eux d'esprit des Guermantes. Comme ces Guermantes étaient pour elles non seulement des parents, mais des admirateurs, Oriane, qui tenait fort le reste de sa famille à l'écart et vengeait maintenant par ses dédains les méchancetés que celle-ci lui avait faites quand elle était jeune fille, allait les voir quelquefois, et généralement en compagnie du duc, à la belle saison, quand elle sortait avec lui. Ces visites étaient un événement. Le cœur battait un peu plus vite à la princesse d'Épinay, qui recevait dans son grand salon du rez-de-chaussée, quand elle apercevait de loin, telles les premières lueurs d'un inoffensif incendie ou les reconnaissances d'une invasion non espérée, traversant lentement la cour d'une démarche oblique, la duchesse, coiffée d'un ravissant chapeau et inclinant une ombrelle d'où pleuvait une odeur d'été. « Tiens, Oriane !» disait-elle comme un garde-à-vous qui cherchait à avertir ses visiteuses avec prudence et pour qu'on eût le temps de sortir en ordre, qu'on évacuât les salons sans panique. La moitié des personnes présentes n'osaient pas rester, se levaient. « Mais non, pourquoi ? Rasseyez-vous donc ! Je suis charmée de vous garder encore un peu !» disait la princesse d'un air dégagé et à l'aise, pour faire la grande dame, mais d'une voix devenue factice. « Vous pourriez avoir à vous parler. Vraiment, vous êtes pressée ? Eh bien, j'irai chez vous !» répondait la maîtresse de maison à celle qu'elle aimait autant voir partir. Le duc et la duchesse saluaient fort poliment des gens qu'ils voyaient là depuis des années sans les connaître pour cela davantage et qui leur disaient à peine bonjour par discrétion. À peine était-il parti que le duc demandait aimablement des renseignements sur eux pour avoir l'air de s'intéresser à la qualité intrinsèque des personnes qu'il ne recevait pas par la méchanceté du destin ou à cause de l'état nerveux d'Oriane. « Qu'est-ce que c'était que cette petite dame en chapeau rose ?»« Mais mon cousin, vous l'avez vue souvent, c'est la vicomtesse de Tours, née Lamarzelle. » « Mais savez-vous qu'elle est jolie ? Elle a l'air spirituelle. S'il n'y avait pas un petit défaut dans la lèvre supérieure, elle serait tout bonnement ravissante. S'il y a un vicomte de Tours, il ne doit pas s'embêter. Oriane, savez-vous à quoi ses sourcils et la plantation de ses cheveux m'ont fait penser ? À votre cousine Edwige de Ligne. » La duchesse de Guermantes, qui languissait dès qu'on parlait de la beauté d'une autre femme qu'elle, laissait tomber la conversation. Elle avait compté, sans le goût qu'avait son mari, pour faire voir qu'il était parfaitement au fait des gens qu'il ne recevait pas, par quoi il croyait se montrer plus sérieux que sa femme. « Mais, disait-il tout d'un coup avec force, vous avez prononcé le nom de Lamarzelle. Je me rappelle que, quand j'étais à la chambre, un discours tout à fait remarquable fut prononcé. c'était l'oncle de la jeune femme que vous venez de voir. »
Oh, quel talent ! Non, mon petit !» disait-il à la vicomtesse d'Aigremont,
que madame de Guermantes ne pouvait souffrir, mais qui, ne bougeant pas de chez la princesse d'Épinay, où elle s'abaissait volontairement à un rôle de soubrette, quitte à battre la sienne en rentrant, restait confuse et pleurait, mais restait quand le couple ducal était là, débarrassait des manteaux, tâchait de se rendre utile, par discrétion offrait de passer dans la pièce voisine.
« Ne faites pas de thé pour nous, causons tranquillement, nous sommes des gens simples, à la bonne franquette. »
« Du reste, » ajoutait-il en se tournant vers madame d'Épinay, en laissant l'Aigremont rougissante, humble, ambitieuse et zélée.
« Nous n'avons qu'un quart d'heure à vous donner. »
Ce quart d'heure était occupé tout entier à une sorte d'exposition des mots que la duchesse avait eue pendant la semaine et qu'elle-même n'eût certainement pas cité, mais que fort habilement le duc, en ayant l'air de la gourmander à propos des incidents qui les avaient provoqués, l'amenait comme involontairement à redire. La princesse d'Épinay, qui aimait sa cousine et savait qu'elle avait un faible pour les compliments, s'extasiait sur son chapeau, son ombrelle, son esprit.
« Parlez-lui de sa toilette tant que vous voudrez !» disait le duc du ton bourru qu'il avait adopté et qu'il tempérait d'un malicieux sourire pour qu'on ne prît pas son mécontentement au sérieux.
« Mais, au nom du ciel, pas de son esprit, je me passerais fort d'avoir une femme aussi spirituelle. Vous faites probablement allusion au mauvais calembour qu'elle a fait sur mon frère Palamède. » ajoutait-il, sachant fort bien que la princesse et le reste de la famille ignorait encore ce calembour, et enchanté de faire valoir sa femme.
D'abord, je trouve indigne d'une personne qui a dit quelquefois, je le reconnais, d'assez jolies choses, de faire de mauvais calembours, mais surtout sur mon frère qui est très susceptible, et si cela doit avoir pour résultat de me fâcher avec lui, c'est vraiment bien la peine.
Mais nous ne savons pas. « Un calembour d'Oriane, cela doit être délicieux. Oh, dites-le !»«
Mais non !» reprenait le duc encore boudeur, quoique plus souriant.
« Je suis ravi que vous ne l'ayez pas appris. Sérieusement, j'aime beaucoup mon frère. »«
Écoutez, Bazin, » disait la duchesse, dont le moment de donner la réplique à son mari était venu.
« Je ne sais pourquoi vous dites que cela peut fâcher Palamède. Vous savez très bien le contraire. Il est beaucoup trop intelligent pour se froisser de cette plaisanterie stupide qui n'a quoi que ce soit de désobligeant. Vous allez faire croire que j'ai dit une méchanceté. J'ai tout simplement répondu quelque chose de pas drôle. Mais c'est vous qui y donnez de l'importance par votre indignation. Je ne vous comprends pas. »
« Vous nous intriguez horriblement. De quoi s'agit-il ? » ?»«
Non, évidemment, de rien de grave !» s'écriait monsieur de Guermantes. « Vous avez peut-être entendu dire que mon frère voulait donner Brézé, le château de sa femme, à sa sœur Marsante. »«
Oui, mais on nous a dit qu'elle ne le désirait pas, qu'elle n'aimait pas le pays où il est, que le climat ne lui convenait pas. »
« Eh bien, justement, quelqu'un disait tout cela à ma femme, et que si mon frère donnait ce château à notre sœur, ce n'était pas pour lui faire plaisir, mais pour la taquiner. « C'est qu'il est si taquin, Charlus, » disait cette personne. « Or, vous savez que Brézé, c'est royal, cela peut valoir plusieurs millions. C'est une ancienne terre du roi. Il y a là une des plus belles forêts de France. » Il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on leur fît des taquineries de ce genre. Aussi, en entendant ce mot de taquin appliqué à Charlus, parce qu'il donnait un si beau château, Oriane n'a pu s'empêcher de s'écrier, involontairement, je dois le confesser, elle n'y a pas mis de méchanceté, car c'est venu vite comme l'éclair.
Taquin ? Taquin ? Alors, c'est Taquin le superbe ?
Vous comprenez, ajoutait en reprenant son ton bourru et non sans avoir jeté un regard circulaire pour juger de l'esprit de sa femme,
le duc, qui était d'ailleurs assez sceptique quant à la connaissance que madame d'Épinay avait de l'histoire ancienne. « Vous comprenez, c'est à cause de Tarquin le Superbe, le roi de Rome. C'est stupide, c'est un mauvais jeu de mots, indigne d'Oriane. Et puis moi, qui suis plus circonspect que ma femme, si j'ai moins d'esprit, je pense aux suites. Si le malheur veut qu'on répète cela à mon frère, ce sera toute une histoire. D'autant plus, ajouta-t-il, que comme justement Palamède est très hautain, très haut et aussi très pointilleux, très enclin au commérage, même en dehors de la question du château, il faut reconnaître que Taquin le Superbe lui convient assez bien. C'est ce qui sauve les maux de madame. C'est que même quand elle veut s'abaisser à de vulgaires à peu près, elle reste spirituelle malgré tout, et elle peint assez bien les gens. » Ainsi, grâce une fois à Taquin le Superbe, une autre fois à un autre mot, ces visites du duc et de la duchesse à leur famille renouvelaient la provision des récits, et l'émoi qu'elles avaient causé durait bien longtemps après le départ de la femme d'esprit et de son imprésario. On se régalait d'abord avec les privilégiés qui avaient été de la fête, les personnes qui étaient restées là, des mots qu'Oriane avait dit. « Vous ne connaissiez pas Taquin le Superbe ?» demandait la princesse d'Épinay. « Si !» répondait en rougissant la marquise de Bavenot. « La princesse de Sarcina, La Rochefoucauld, m'en avait parlé, pas tout à fait dans les mêmes termes. Mais cela a dû être bien plus intéressant de l'entendre raconter ainsi devant ma cousine, » ajoutait-elle, comme elle aurait dit de l'entendre accompagnée par l'auteur. « Nous parlions du dernier mot d'Oriane qui était ici tout à l'heure, » disait-on à une visiteuse qui allait se trouver désolée de ne pas être venue une heure auparavant. « Comment ? Oriane était ici ? Mais oui, vous seriez venue un peu plus tôt, » lui répondait la princesse d'Épinay, sans reproche, mais en laissant comprendre tout ce que la maladroite avait raté. C'était sa faute si elle n'avait pas assisté à la création du monde ou à la dernière représentation de madame Carvalho. « Qu'est-ce que vous dites du dernier mot d'Oriane ? J'avoue que j'apprécie beaucoup Taquin le Superbe. » Et le mot se mangeait encore froid le lendemain à déjeuner, entre intimes qu'on invitait pour cela, et repassait sous diverses sauces pendant la semaine. Même la princesse, faisant cette semaine-là sa visite annuelle à la princesse de Parme, en profitait pour demander à l'Altesse si elle connaissait le mot et le lui racontait. « Ah, Taquin le Superbe !» disait la princesse de Parme, les yeux écarquillés par une admiration a priori, mais qui implorait un supplément d'explication auquel ne se refusait pas la princesse d'Épinay. « J'avoue que Taquin le Superbe me plaît infiniment comme rédaction, » concluait la princesse. En réalité, le mot de rédaction ne convenait nullement pour ce calembour, mais la princesse d'Épinay, qui avait la prétention d'avoir assimilé l'esprit des Guermantes, avait pris à Oriane les expressions « rédiger »,« rédaction » et les employait sans beaucoup de discernement. Or, la princesse de Parme, qui n'aimait pas beaucoup madame d'Épinay, qu'elle trouvait laide, savait avare et croyait méchante, sur la foi des courvoisiers, reconnut ce mot de « rédaction » qu'elle avait entendu prononcer par madame de Guermantes et qu'elle n'eût pas su appliquer toute seule. Elle eut l'impression que c'était, en effet, la rédaction qui faisait le charme de Taquin le Superbe, et sans oublier tout à fait son antipathie pour la dame laide et avare, elle ne put se défendre d'un tel sentiment d'admiration pour une femme qui possédait à ce point l'esprit des Guermantes qu'elle voulut inviter la princesse d'Épinay à l'opéra. Seule la retint la pensée qu'il conviendrait peut-être de consulter d'abord madame de Guermantes. Quant à madame d'Épinay, qui, bien différente des courvoisiers, faisait mille grâces à Oriane et l'aimait, mais était jalouse de ses relations, et un peu agacé des plaisanteries que la duchesse lui faisait devant tout le monde sur son avarice. Elle raconta, en rentrant chez elle, combien la princesse de Parme avait eu de peine à comprendre Taquin le Superbe, et combien il fallait qu'Oriane fût snob pour avoir dans son intimité une pareille dinde. « Je n'aurais jamais pu fréquenter la princesse de Parme si j'avais voulu, » dit-elle aux amis qu'elle avait à dîner, « parce que M. d'Épinay ne me l'aurait jamais permis à cause de son immoralité. » faisant allusion à certains débordements purement imaginaires de la princesse. Mais même si j'avais eu un mari moins sévère, j'avoue que je n'aurais pas pu. Je ne sais pas comment Oriane fait pour la voir constamment. Moi, j'y vais une fois par an, et j'ai bien de la peine à arriver au bout de la visite. Quant à ceux des courvoisiers qui se trouvaient chez Victurienne au moment de la visite de Madame de Guermantes, l'arrivée de la duchesse les mettait généralement en fuite à cause de l'exaspération que leur causaient les salamalecs exagérés qu'on faisait pour Oriane. Un seul resta le jour de Taquin le Superbe. Il ne comprit pas complètement la plaisanterie, mais tout de même à moitié, car il était instruit. Et les courvoisiers allèrent, répétant qu'Oriane avait appelé l'oncle Palamède Tarquin le Superbe, ce qui le peignait, selon eux, assez bien. « Mais pourquoi faire tant d'histoire avec Oriane ? » ajoutait-il. « On n'en aurait pas fait davantage pour une reine. En somme, qu'est-ce qu'Oriane ? Je ne dis pas que les Guermantes ne soient pas de vieilles souches, mais les courvoisiers ne le leur cèdent en rien, ni comme illustration, ni comme ancienneté, ni comme alliance. Il ne faut pas oublier qu'au camp du drap d'or, comme le roi d'Angleterre demandait à François Ier quel était le plus noble des seigneurs là présents, « Sire, répondit le roi de France, c'est courvoisier. » D'ailleurs, tous les courvoisiers fussent-ils restés, que les mots les eussent laissés d'autant plus insensibles que les incidents qui les faisaient généralement naître auraient été considérés par eux d'un point de vue tout à fait différent. Si, par exemple, une courvoisier se trouvait manquée de chaise dans une réception qu'elle donnait, ou si elle se trompait de nom en parlant à une visiteuse qu'elle n'avait pas reconnue, ou si un de ses domestiques lui adressait une phrase ridicule. La courvoisier, ennuyée à l'extrême, rougissante, frémissant d'agitation, déplorait un pareil contretemps. Et quand elle avait un visiteur et qu'Oriane devait venir, elle disait sur un ton anxieusement et impérieusement interrogatif « Est-ce que vous la connaissez ?» craignant, si le visiteur ne la connaissait pas, que sa présence donnât une mauvaise impression à Oriane. Mais Madame de Guermantes tirait, au contraire, de tels incidents l'occasion de récits qui faisaient rire les Guermantes aux larmes, de sorte qu'on était obligé de l'envier d'avoir manqué de chaise, d'avoir fait ou laissé faire à son domestique une gaffe, d'avoir eu chez soi quelqu'un que personne ne connaissait, comme on est obligé de se féliciter que les grands écrivains aient été tenus à distance par les hommes et trahis par les femmes quand leurs humiliations et leurs souffrances ont été, sinon l'aiguillon de leur génie, du moins la matière de leurs œuvres. Les courvoisiers n'était pas davantage capable de s'élever jusqu'à l'esprit d'innovation que la duchesse de Guermantes introduisait dans la vie mondaine et qui, en l'adaptant selon un surinstinct aux nécessités du moment, en faisait quelque chose d'artistique, là où l'application purement raisonnée de règles rigides eût donné d'aussi mauvais résultats qu'à quelqu'un qui, voulant réussir en amour ou dans la politique, reproduirait à la lettre dans sa propre vie les exploits de Bussy d'Amboise. Si les courvoisiers donnaient un dîner de famille, ou un dîner pour un prince, l'adjonction d'un homme d'esprit, d'un ami de leur fils, leur semblait une anomalie capable de produire le plus mauvais effet. Une courvoisier, dont le père avait été ministre de l'empereur, ayant à donner une matinée en l'honneur de la princesse Mathilde, déduisit, par esprit de géométrie, qu'elle ne pouvait inviter que des bonapartistes. Or, Elle n'en connaissait presque pas. Toutes les femmes élégantes de ses relations, tous les hommes agréables, furent impitoyablement bannis, parce que, d'opinion ou d'attache légitimiste, ils auraient, selon la logique des Courvoisier, pu déplaire à l'Altesse impériale. Celle-ci, qui recevait chez elle la fleur du faubourg Saint-Germain, fut assez étonnée quand elle trouva seulement chez Madame de Courvoisier une picassienne célèbre, veuve d'un ancien préfet de l'Empire, la veuve du directeur des postes et quelques personnes connues pour leur fidélité à Napoléon, leur bêtise et leur ennui. La princesse Mathilde n'en répandit pas moins le ruissellement généreux et doux de sa grâce souveraine sur les laiderons calamiteux que la duchesse de Guermantes se garda bien, elle, de convier, quand ce fut son tour de recevoir la princesse, et qu'elle remplaça, sans raisonnement a priori sur le bonapartisme, par le plus riche bouquet de toutes les beautés, de toutes les valeurs, de toutes les célébrités, qu'une sorte de flair, de tact et de doigté lui faisait sentir devoir être agréable à la nièce de l'empereur, même quand elles étaient de la propre famille du roi. Il n'y manqua même pas le duc d'Aumale, et quand, en se retirant, la princesse, relevant Madame de Guermantes qui lui faisait la révérence et voulait lui baiser la main, l'embrassa sur les deux joues. Ce fut du fond du cœur qu'elle put assurer à la duchesse qu'elle n'avait jamais passé une meilleure journée ni assisté à une fête plus réussie. La princesse de Parme était courvoisée par l'incapacité d'innover en matière sociale. Mais, à la différence des courvoisiers, la surprise que lui causait perpétuellement la duchesse de Guermantes engendrait, non comme chez eux l'antipathie, mais l'émerveillement. Cet étonnement était encore accru du fait de la culture infiniment arriérée de la princesse. Madame de Guermantes était elle-même beaucoup moins avancée qu'elle ne le croyait. Mais il suffisait qu'elle le fût plus que Madame de Parme pour stupéfier celle-ci. Et comme chaque génération de critiques se borne à prendre le contre-pied des vérités admises par leurs prédécesseurs, elle n'avait qu'à dire que Flaubert, cet ennemi des bourgeois, était avant tout un bourgeois, ou qu'il y avait beaucoup de musique italienne dans Wagner, pour procurer à la princesse, au prix d'un surmenage toujours nouveau, comme à quelqu'un qui nage dans la tempête, des horizons qui lui paraissaient inouïs et lui restaient confus. Stupéfaction d'ailleurs devant les paradoxes, proférés non seulement au sujet des œuvres artistiques, mais même des personnes de leur connaissance, et aussi des actions mondaines. Sans doute, l'incapacité où était Madame de Parme de séparer le véritable esprit des Guermantes des formes rudimentairement apprises de cet esprit, ce qui la faisait croire à la haute valeur intellectuelle de certains, et surtout de certaines Guermantes, dont ensuite elle était confondue d'entendre la duchesse lui dire en souriant que c'était de simples cruches. Telle était une des causes de l'étonnement que la princesse avait toujours à entendre Madame de Guermantes juger les personnes. Mais il y en avait une autre, et que, moi qui connaissais à cette époque plus de livres que de gens, et mieux la littérature que le monde, je m'expliquais en pensant que la duchesse, vivant de cette vie mondaine dont le désœuvrement et la stérilité sont à une activité sociale véritable, ce qu'est en art la critique à la création, étendait aux personnes de son entourage l'instabilité de point de vue, la soif malsaine du raisonneur qui, pour étancher son esprit trop sec, va chercher n'importe quel paradoxe encore un peu frais et ne se gênera point de soutenir l'opinion désaltérante que la plus belle Iphigénie est celle de Piccini et non celle de Gluck. Au besoin, la véritable Phèdre, celle de Pradon. Quand une femme intelligente, instruite, spirituelle, avait épousé un timide butor qu'on voyait rarement et qu'on n'entendait jamais, Madame de Guermantes s'inventait un beau jour une volupté spirituelle, non pas seulement en décrivant la femme, mais en découvrant le mari. Dans le ménage Cambremer, par exemple, si elle eût vécu alors dans ce milieu, elle eût décrété que Madame de Cambremer était stupide, et en revanche, que la personne intéressante, méconnue, délicieuse, vouée au silence par une femme jacassante, mais l'avalant mille fois, était le marquis. Et la duchesse eût éprouvé à déclarer cela le même genre de rafraîchissement que le critique qui, depuis 70 ans qu'on admire Hernani, confesse lui préférer le lion amoureux. À cause du même besoin maladif de nouveautés arbitraires, si depuis sa jeunesse on plaignait une femme modèle, une vraie sainte, d'avoir été mariée à un coquin, un beau jour, Madame de Guermantes affirmait que ce coquin était un homme léger, mais plein de cœur, que la dureté implacable de sa femme avait poussé à de vraies inconséquences. Je savais que ce n'était pas seulement entre les œuvres, dans la longue série des siècles, mais jusqu'au sein d'une même œuvre que la critique joue à replonger dans l'ombre ce qui depuis trop longtemps était radieux, et à en faire sortir ce qui semblait voué à l'obscurité définitive. Je n'avais pas seulement vu Bellini, Winterhalter, les architectes jésuites, un ébéniste de la Restauration, venir prendre la place de génie qu'on avait dit fatigué, simplement parce que les oisifs intellectuels s'en étaient fatigués, comme sont toujours fatigués, échangeant, les neurasthéniques. J'avais vu préférer en Sainte-Beuve tour à tour le critique et le poète. Musset renié quant à ses vers, sauf pour de petites pièces fort insignifiantes. Sans doute, certains essayistes ont tort de mettre au-dessus des scènes les plus célèbres du Cid ou de Polyeucte, telle tirade du menteur, qui donne, comme un plan ancien, des renseignements sur le Paris de l'époque. Mais leur prédilection, justifiée sinon par des motifs de beauté, du moins par un intérêt documentaire, est encore trop rationnelle pour la critique folle. Elle donne tout Molière pour un vers de l'étourdi. Et même en trouvant le Tristan de Wagner assommant, en sauvera une jolie note de cor au moment où passe la chasse. Cette dépravation m'aida à comprendre celle dont faisait preuve Madame de Guermantes quand elle décidait qu'un homme de leur monde, reconnu pour un brave cœur, mais sot, était un monstre d'égoïsme, plus fin qu'on ne croyait, qu'un autre connu pour sa générosité pouvait symboliser l'avarice, qu'une bonne mère ne tenait pas à ses enfants, et qu'une femme qu'on croyait vicieuse avait les plus nobles sentiments. Comme gâtée par la nullité de la vie mondaine, l'intelligence et la sensibilité de Madame de Guermantes étaient trop vacillantes pour que le dégoût ne succédât pas assez vite chez elle à l'engouement, quitte à se sentir de nouveau attirée vers le genre d'esprit qu'elle avait tour à tour recherché et délaissé. Et pour que le charme qu'elle avait trouvé à un homme de cœur ne se changeant pas, s'il la fréquentait trop, cherchait trop en elle des directions qu'elle était incapable de lui donner, en un agacement qu'elle croyait produit par son admirateur et qui ne l'était que par l'impuissance où on est de trouver du plaisir quand on se contente de le chercher. Les variations de jugement de la duchesse n'épargnaient personne, excepté son mari. Lui seul ne l'avait jamais aimé. En lui, elle avait senti toujours un de ses caractères de fer, indifférent aux caprices qu'elle avait, dédaigneux de sa beauté, violent, d'une volonté à ne plier jamais et sous la seule loi desquelles les nerveux savent trouver le calme. D'autre part, M. de Guermantes, poursuivant un même type de beauté féminine, mais le cherchant dans des maîtresses souvent renouvelées, n'avait, une fois qu'il les avait quittées et pour se moquer d'elles, qu'une associée durable, identique, qui l'irritait souvent par son bavardage, mais dont il savait que tout le monde la tenait pour la plus belle, la plus vertueuse, la plus intelligente, la plus instruite de l'aristocratie, pour une femme que lui, M. de Guermantes, était trop heureux d'avoir trouvée, qui couvrait tous ses désordres, recevait comme personne et maintenait à leur salon son rang de premier salon du faubourg Saint-Germain. Cette opinion des autres, il la partageait lui-même. Souvent de mauvaise humeur contre sa femme, il était fier d'elle. Si, aussi avare que fastueux, il lui refusait le plus léger argent pour des charités, pour les domestiques, il tenait à ce qu'elle eût les toilettes les plus magnifiques et les plus beaux attelages. Chaque fois que Madame de Guermantes venait d'inventer, relativement aux mérites et aux défauts, brusquement intervertis par elle d'un de leurs amis, un nouveau et friand paradoxe, elle brûlait d'en faire l'essai devant des personnes capables de le goûter, d'en faire savourer l'originalité psychologique et briller la malveillance lapidaire. Sans doute, ses opinions nouvelles ne contenaient pas d'habitude plus de vérité que les anciennes, souvent moins. Mais justement, ce qu'elles avaient d'arbitraire et d'inattendu leur conférait quelque chose d'intellectuel qui les rendait émouvantes à communiquer. Seulement, le patient sur qui venait de s'exercer la psychologie de la duchesse était généralement un intime, dont ceux à qui elle souhaitait de transmettre sa découverte ignoraient entièrement qu'il ne fût plus au comble de la faveur. Aussi, la réputation qu'avait Madame de Guermantes d'incomparable amie sentimentale, douce et dévouée, rendait difficile de commencer l'attaque. Elle pouvait tout au plus intervenir ensuite comme contrainte et forcée, en donnant la réplique pour apaiser, pour contredire en apparence, pour appuyer en fait un partenaire qui avait pris sur lui de la provoquer. C'était justement le rôle où excellait M. de Guermantes. Quant aux actions mondaines, c'était encore un autre plaisir, arbitrairement théâtral, que Madame de Guermantes éprouvait à émettre sur elle de ces jugements imprévus qui fouettaient de surprises incessantes et délicieuses la princesse de Parme. Mais ce plaisir de la duchesse, ce fut moins à l'aide de la critique littéraire que d'après la vie politique et la chronique parlementaire que j'essayais de comprendre quel il pouvait être. Les édits successifs et contradictoires par lesquels Madame de Guermantes renversait sans cesse l'ordre des valeurs chez les personnes de son milieu ne suffisant plus à la distraire, elle cherchait aussi, dans la manière dont elle dirigeait sa propre conduite sociale, dont elle rendait compte de ses moindres décisions mondaines, à goûter ses émotions artificielles, à obéir à ses devoirs factices qui stimulent la sensibilité des assemblées et s'imposent à l'esprit des politiciens. On sait que quand un ministre explique à la Chambre qu'il a cru bien faire en suivant une ligne de conduite qui semble en effet toute simple à l'homme de bon sens qui le lendemain dans son journal lit le compte-rendu de la séance, ce lecteur de bon sens se sent pourtant remué tout d'un coup et commence à douter d'avoir eu raison d'approuver le ministre, en voyant que le discours de celui-ci a été écouté au milieu d'une vive agitation et ponctué par des expressions de blâme telles que « c'est très grave » prononcées par un député dont le nom et les titres sont si longs et suivis de mouvements si accentués que dans l'interruption tout entière les mots « c'est très grave » tiennent moins de place qu'un hémistiche dans un alexandrin. Par exemple, autrefois, quand M. de Guermantes, prince des Laumes, siégeait à la Chambre, on lisait quelquefois dans les journaux de Paris, bien que ce fût surtout destiné à la circonscription de mes églises et afin de montrer aux électeurs qu'ils n'avaient pas porté leur vote sur un mandataire inactif ou muet, « M. de Guermantes Bouillon, prince des Laumes, ceci est grave. Très bien, au centre et sur quelques bancs à droite, vives exclamations à l'extrême gauche. » Le lecteur de bon sens garde encore une lueur de fidélité au sage ministre. Mais son cœur est ébranlé de nouveaux battements par les premiers mots du nouvel orateur qui répond au ministre. L'étonnement, la stupeur, ce n'est pas trop dire. Vive sensation dans la partie droite de l'hémicycle. Que m'ont causé les paroles de celui qui est encore, je suppose, membres du gouvernement, tonnèrent d'applaudissements. Quelques députés s'empressent vers le banc des ministres. Monsieur le sous-secrétaire d'État au poste et télégraphe fait de sa place avec la tête un signe affirmatif. Ce tonnerre d'applaudissements emporte les dernières résistances du lecteur de bon sens. Il trouve insultante pour la Chambre, monstrueuse, une façon de procéder qui, en soi-même, est insignifiante. Au besoin, quelques faits normaux, par exemple. Vouloir faire payer les riches plus que les pauvres, la lumière sur une iniquité, préférer la paix à la guerre, il le trouvera scandaleux et y verra une offense à certains principes auxquels il n'avait pas pensé en effet, qui ne sont pas inscrits dans le cœur de l'homme, mais qui émeuvent fortement à cause des acclamations qu'il déchaîne et des compactes majorités qu'il rassemble.